Chapitre 13. L'élève et son professeur. Et maintenant que le lecteur nous permette de substituer notre récit à celui du narrateur, le récit en sera plus complet, puisque nous aurons la faculté de dire de l'excellent homme que nous venons de mettre en scène ce que sa modestie ne lui permettrait pas de dire lui-même. 7 ans avant le jour où s'est ouvert le péristyle de l'histoire gigantesque dans laquelle nous n'avons pas craint de nous engager, cette même chambre qu'habitait le violoncelliste et dont les deux jeunes gens avaient été si émerveillés, cette même chambre, disons-nous, était loin de ressembler à celle que nous venons de décrire dans sa charmante simplicité. Au lieu du rideau de mousseline blanche qui tapissait le lit et qui donnait à l'alcôve un air de petite chapelle, au lieu de la Vierge de stuc dressée sur la cheminée et étendant ses deux bras au-dessus des habitants de cette chambre comme une bénédiction éternelle, au lieu des deux flambeaux supportant des bougies roses, sorte de cierges qui, avec la mousseline du lit et la statuette de la Vierge, donnaient à ce réduit un parfum de quiétude et de recueillement, c'était une espèce de salle basse, dallée plutôt que carrelée, étroite, froide et humide, sans fleurs parfumées, sans oiseaux chanteurs, sans tentures et sans papier. Les seuls ornements des murailles consistaient dans une vieille gravure à l'eau forte représentant la mélancolie d'Albert Dürer et dans une petite glace de forme carrée au cadre de bois jaune surmonté de deux branches de buis en croix et faisant face à la gravure. Le fond de la chambre était caché par un grand rideau de serge verte, lequel, accroché par des clous aux solives du plafond, retombait jusqu'aux dalles qui servaient de plancher. C'était sans doute un voile jeté par des mains amies pour dérober aux visiteurs le navrant spectacle de quelques pauvres couchettes. Cette chambre, en un mot, était l'habitation la plus misérable et la plus triste qu'il fût possible d'imaginer. On se sentait le cœur profondément ému en jetant les yeux autour de soi, car on eût en vain cherché un seul point où la vue pût se reposer agréablement. Les murs suaient la misère, les solives du plafond pliant sous le poids qu'elles portaient depuis 300 ans peut-être, menaçaient ruine, l'atmosphère était lourde et viciée. En apercevant le guichet qu'on avait percé dans la porte, on frissonnait comme en visitant un cachot. C'était bien moins, en effet, la cellule d'un austère cénobite que le cabanon d'un pauvre fou. À l'exception d'une table de vieux chêne, d'un tableau de bois peint en noir destiné à faire des démonstrations lacrées, d'un pupitre sur lequel était placé un gros volume contenant sans doute les œuvres de Handel ou les psaumes de Marcello, à l'exception d'un banc assez long, pouvant donner place à 8 ou 10 personnes, d'un tabouret élevé et d'une chaise de paille, l'intérieur de la chambre était aussi nu que les murs. Celui qui habitait cette chambre était un pauvre maître d'école du quartier Saint-Jacques. À cette école, c'est-à-dire en 1820, il était parvenu, à force de patience, à fonder dans le faubourg une petite école d'enfants. Pour la somme modique de 5 francs par mois, qu'on ne lui payait pas toujours exactement, il enseignait, selon son programme, la lecture, l'écriture, l'histoire sainte et les 4 règles de l'arithmétique. Mais, en réalité, il enseignait bien plus que ne promettait son programme. Fils d'un pauvre fermier de province, il avait été envoyé au collège Louis-le-Grand dès l'âge de 10 ans. À peine les livres lui avaient-ils été ouverts que le professeur intelligent, aux soins duquel il avait été confié, avait reconnu en lui une aptitude peu commune et de rare disposition. Ce professeur, modeste et brave homme, vieux d'années, jeune de cœur, arbre qui aurait poussé des rameaux et donné des fruits au soleil du monde, mais qui, privé d'air chaud et de suc vivifiant, s'était étiolé et rabougri derrière les murs humides et moussus d'un collège. Ce professeur, au bout d'une année, le prit en amitié et s'attacha à lui aussi tendrement qu'un père pourrait s'attacher à son dernier enfant. Lui aussi, il y avait 30 ans, était venu du fond de sa province à Paris. Dépaysé au milieu de cette société en raccourci qu'on appelle le collège, entouré de fils de famille, de jeunes gens riches, lui enfant pauvre, Il avait, comme son jeune disciple dans lequel il se voyait revivre, plus d'une fois regretté le sentier verdoyant qui conduisait à la ferme paternelle. Plus d'une fois, il avait pleuré des larmes amères au souvenir de la liberté que l'on respirait dans l'air de son pays natal. Enfin, comme son élève, il avait fermé les yeux pour oublier le passé et s'était jeté à corps perdu dans la voie aride et raboteuse de la science, où le plus clairvoyant se heurte toujours à quelque problème insoluble, à quelque théorie inconnue. Cette sympathique similitude de pauvreté, d'intelligence et d'isolement donna tout d'abord, nous croyons l'avoir déjà dit, au vieux professeur, la plus profonde affection pour le petit Justin. C'est ainsi que se nommait l'enfant. En lui versant les premières gouttes de la science, il s'efforça en lui à adoucir les amertumes. Il lui tendit la main dans les fourrés épais qui obstruent les premières avenues de l'étude. Il écarta de lui les ronces aiguës, les orties brûlantes. Enfin, sa sollicitude n'épargna aucun soin pour lui frayer sur ses pas un chemin facile à travers les broussailles de ce pays inconnu. De son côté, Justin conçut pour son vieux maître une tendresse abondante comme celle d'un fils, reconnaissante et respectueuse comme celle d'un écolier. Aussi, dès que l'heure de la récréation était sonnée, après avoir serré livres et cahiers dans sa « baraque », comme on dit au collège, il traversait la cour en deux ou trois enjambées, et soit qu'il ne prît aucun plaisir à la récréation, soit qu'il n'eût point d'amis de son âge, soit enfin que son seul camarade, son unique ami, fût son vieux professeur, dès que l'heure de la récréation était sonnée, disons-nous, il allait le retrouver dans sa chambre, et alors la plus douce causerie commençait entre eux. Tantôt c'était l'histoire, tantôt c'était les mythologies ou les voyages qui faisaient le sujet de cette conversation, tantôt c'était les œuvres des poètes anciens ou des grands artistes que l'on passait en revue. Qu'un gai rayon de soleil entra tout à coup dans la chambre, apportant avec lui comme un souvenir des champs, comme un parfum des forêts, les vers de Virgile et d'Homère, ces deux grands prêtres de la nature, poussaient alors sur leurs lèvres, ainsi que les fleurs de la terre au mois d'avril. Le vieillard admirait les poètes à travers la nature et faisait entrevoir à l'enfant la nature à travers les poètes. C'était surtout le dimanche qui apportait, dans le pan de sa blanche tunique, les plus douces heures de la semaine. Au coin du feu pendant l'hiver, dans les boîtes Versailles, de Meudon ou de Montmorency pendant l'été, c'était toute une journée qu'on avait le droit de passer ensemble. Oh, cette journée tant attendue durant 6 jours, comme on la mettait à profit en entamant une longue discussion sur quelques points en controverse. Un jour, c'était un vieux camarade du professeur qui venait lui faire visite. Un autre jour, c'était la lettre de la famille que l'on redisait 10 fois. Enfin, c'était sans cesse quelque causerie instructive ou intéressante. Si, par hasard, hasard qui ne se produisait pas 3 fois dans l'année, le maître était appelé à quelque cérémonie, à quelque dîner officiel, chez le proviseur ou chez un haut fonctionnaire de l'université où il ne pouvait pas conduire Justin, l'enfant passait les récréations de ce dimanche à se promener avec un jeune garçon de son âge, isolé et pauvre comme lui, mais d'intelligence aussi rétive que la sienne était facile. C'était à peu près le seul camarade qu'il eut dans le collège, non pas que les autres élèves lui fussent antipathiques, tout au contraire, il eût aimé tout le monde, mais c'était lui qui était abandonné de tous. L'inégalité des fortunes sépare déjà les enfants au collège, comme plus tard elle séparera les hommes dans la société, et les deux écoliers dont on voit l'ombre réunie se projeter sur les grands murs de la palissade dans la cour de la récréation sont toujours deux pauvres ou deux riches. Un jour, le vieux maître de Justin se révéla à lui sous une forme toute nouvelle. Depuis longtemps, il lui ménageait une surprise aussi douce qu'inattendue. La chambre qu'habitait le bon Müller, c'était le nom du vieux professeur, était située au-dessus de l'infirmerie. On était donc obligé à 1000 précautions et le plancher était si mince qu'on entendait retentir les pas les plus légers. Dans la bonté de son âme, le vieux professeur redoutait de causer le plus faible trouble dans le repos des malades. Il avait donc renoncé à satisfaire la seule passion qui eût jamais fait battre son cœur, il adorait la musique et jouait du violoncelle avec la science et l'amour d'un violoncelliste allemand. Or, nous l'avons dit, depuis 3 ans qu'il habitait cette malheureuse chambre, date qui coïncidait à peu de choses près avec l'entrée de Justin au collège, il n'avait touché ni son archet, ni son violoncelle, et cependant il attendait sans se plaindre l'instant où il pourrait, dans la nouvelle chambre qu'on lui destinait et qu'on lui promettait depuis 18 mois, reprendre son occupation favorite. Ce jour tant attendu arriva enfin. Ce fut une douce surprise pour Justin lorsqu'il entendit le maître bien-aimé, installé dans son nouveau logement, tirer les premiers accords du violoncelle, cet instrument grave et mélancolique comme une plainte des bois. Justin tomba dans une profonde extase, et tant que joua M. Müller, il l'écouta, les mains jointes. À partir de ce moment, Justin ne laissa pas une minute de repos à son vieux professeur, qu'il ne lui eût fait part de ces trésors d'harmonie endormis depuis si longtemps et qui, en s'éveillant, avaient remué toutes les fibres de son âme. Chaque jour, Justin venait prendre sa leçon, c'est-à-dire que chaque jour, le jeune homme consacrait à la musique le temps qu'il consacrait autrefois à cette récréation qui, du reste, n'avait jamais été qu'un travail déguisé sous les apparences du plaisir. Alors on déchiffrait les œuvres des maîtres, on comparait les anciens avec les nouveaux, Porpora avec Weber, Bach avec Mozart, Haydn avec Cimarosa. On stigmatisait les plagiaires, on faisait l'histoire de la musique depuis son commencement au chant grégorien jusqu'à Guy d'Arezzo et puis Guy d'Arezzo jusqu'à nos jours. Puis de la musique, mais par manière d'épisode seulement, on revenait à la peinture et à la poésie, ses deux sœurs. Enfin, de même que le maître avait conduit autrefois son élève dans les plaines vertes de la science, il le conduisait maintenant dans les plaines azurées de l'art. Toutes ces semences, jetées par une main douce et savante à la fois dans le cœur de l'enfant, fleurirent et fructifièrent dans cet isolement à deux. L'isolement a cela de bon qu'il force l'homme à comprendre l'ineffable douceur qui est en lui, douceur qui l'ignorerait à jamais perdue au milieu de cette société égoïste qui nous dérobe la moitié de notre vie. L'isolement habitue l'homme à faire un perpétuel retour sur lui-même, c'est le recueillement quotidien. Il y a toute une religion dans la solitude. L'isolement rend les mauvais bons, les bons meilleurs. Dans le silence, Dieu parle au cœur de l'homme, dans la solitude, l'homme parle au cœur de Dieu. L'isolement à deux est encore mieux que l'isolement solitaire. L'isolement à deux, c'est un rêve, un conte de fées. Ce fut le rêve du vieux maître et de son élève, rêve de 7 années, dont le chagrin vint les tirer en sursaut. Un matin, un dimanche, un jour du mois de février 1814, la lettre hebdomadaire, la lettre de famille, arriva. Elle était cachetée de noir. Ce n'était pas l'écriture du père, ce n'était pas l'écriture de la mère. Le père était-il mort, la mère était-elle morte? Si l'un des deux survivait, comment n'était-ce pas celui-là qui annonçait la nouvelle terrible? Justin décacheta la lettre en tremblant. Le malheur allait plus loin que le plus triste pressentiment n'eût pu le prévoir. Les Cosaques avaient ravagé la récolte, pillé les greniers, incendié la ferme. La mère, en se jetant sur le lit de sa fille pour l'arracher aux flammes, avait eu les yeux brûlés. La mère était aveugle. Mais le père, lui, le père, pourquoi n'avait-il pas écrit? Le père, vieux soldat de la République, avait perdu la tête en voyant l'étendue de son malheur. Il avait pris son fusil et s'était mis à faire la chasse aux Cosaques. Il en avait tué 9. Mais au moment où il ajustait le 10e, sans s'apercevoir qu'il était tombé lui-même dans une embuscade, une 12aine de coups de fusil étaient partis à la fois. 2 balles lui avaient traversé la poitrine, 1/3 lui avait brisé la tête. Il était tombé roi de mort. Le maître partagea les regrets de l'écolier, les larmes du vieillard et de l'enfant se confondirent, mais larmes et regrets n'y pouvaient rien, il fallait se quitter. Justin embrassa son second père, le professeur méritait bien ce nom, car si le jeune homme avait reçu du premier la vie du corps, il avait reçu du second la vie de l'âme, et les deux amis se séparèrent.